Sur Radio Campus Tours, vous écoutez La Méridienne. C'est la première méridienne reconfinée et dématérialisée avec au programme une chronique des étudiants Relais Santé du service de santé universitaire. Gaëlle et Faustine nous présentent les actions du SSU en temps de Covid-19. Vous entendrez ensuite Jackie Chartier, directeur du transfert à Cévallo. Il nous présente cette entité qui accompagne les structures de recherche en région Centre-Val de Loire dans le transfert de technologies et la valorisation de leurs travaux. Et tout de suite, nous écoutons Gaëlle et Faustine, étudiantes Relais Santé au service de santé universitaire.
Bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, on va se présenter pour que les auditeurs puissent savoir qui on est et notre rôle. Et ensuite, on parlera effectivement de l'actualité avec le Covid-19 à l'université et tous les trucs qu'on essaie de mettre en place, par exemple sur les réseaux sociaux, pour remonter le moral des auditeurs.
Du coup, nous, on est ERS, c'est étudiants relais santé. Donc, notre but, c'est de faire le lien entre les étudiants et le SSU, donc le service de santé universitaire. Donc, on est des étudiants qui viennent de toutes les filières pour toucher le plus de monde possible. Et on est sur plusieurs groupes thématiques. Donc, il y a un groupe qui parle des addictions et des soirées festives, même si en ce moment, ce n'est plus vraiment d'actualité. Il y a un groupe qui parle de vie affective et de sexualité. Et il y a un groupe qui parle de bien-être. Et en plus, il y a aussi une antenne de deux étudiants relais santé à Blois.
Tous les étudiants de l'université, à partir de la deuxième année de leur cursus et ou alors ayant redoublé la première année, vont recevoir un mail. En fait, c'est pendant l'été, on reçoit un mail pour nous dire qu'il y a des places pour devenir étudiant relais santé, donc sur les différents groupes thématiques. Et après, si ça nous intéresse, on postule, donc on donne un CV et une lettre de motivation. Et ensuite, si on est retenu, on va avoir un entretien avec le coordinateur Tony Grandon directement au SSU, ainsi que le médecin et... Et après, on a les réponses par mail pour savoir si on est pris. Et faut avoir de la motivation. Alors, pour ma part, c'est vrai, du coup, donc, je suis dans le groupe thématique vie affective et sexuelle. Donc, je m'intéresse depuis pas mal de temps à toutes ces problématiques. Et je fais aussi partie d'une association et qui traite aussi de ce genre de thématiques. Et c'est pour ça que, du coup, je me suis dit que les deux pouvaient... très bien se combiner et m'apporter pas mal de choses parce qu'on a des projets, on réfléchit vraiment en question, on est investi comme membre à part entière du SSU.
Moi, j'ai voulu devenir étudiant relais santé parce que c'est un job qui ne nécessite pas beaucoup d'heures, donc ça peut être un bon job si on n'a pas forcément beaucoup de temps en dehors de la fac, mais qu'on veut quand même s'investir. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant... de travailler dans un supermarché pour un étudiant. Déjà, on est au contact d'autres étudiants. Donc, c'est super, super sympa comme cadre. C'est des thématiques très intéressantes. On se développe aussi nous-mêmes personnellement en travaillant en tant qu'étudiant relais santé. On apprend beaucoup de choses. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu devenir étudiant relais santé.
Alors, pour ma part, je suis en deuxième année de droit.
Et pour ma part, je suis en deuxième année de prépa intégrée à Polytech.
Effectivement, il y a plusieurs profils d'étudiants relais santé en partie. Ouais.
C'est important qu'on vienne de tous horizons pour amener différentes personnes du coup, et qu'on puisse adresser chacun à différentes personnes. Du coup, nous, on travaille pour le SSU. Donc, le SSU, c'est un lieu où vous pouvez voir plein de médecins différents.
En effet, on peut donc prendre des rendez-vous au SSU, même en temps de confinement, donc en ligne, pour par exemple les infirmiers, les généralistes, les gynécologues. Le prix s'élève à 7,50 € avec la carte vitale. Et s'il y a donc aussi la carte mutuelle, c'est un remboursement complet. Et il y a aussi une possibilité de prendre un rendez-vous avec un psychologue ou une assistante sociale. Et dans le contexte actuel, c'est mieux d'appeler pour la prise de rendez-vous.
Donc, tout le service de santé universitaire, il est maintenu pendant le confinement, la période du Covid. Les gens peuvent toujours venir à leur rendez-vous et peuvent toujours prendre rendez-vous s'ils ont besoin de le faire par Internet, du coup. Et au début, avant le confinement, on avait mis en place des kits Covid avec un masque, du gel hydroalcoolique et un thermomètre si besoin. Donc, on ne peut plus les donner à l'université, mais les étudiants peuvent toujours venir les chercher au SSU avec leur carte étudiante.
Et bien évidemment, l'attestation dérogatoire pour pouvoir se déplacer.
On avait aussi mis en place des dépistages à la fac. Ils sont suspendus jusqu'à nouvelles informations pour l'instant pendant le confinement. Mais vous pouvez toujours vous faire dépister hors de la fac en contactant votre médecin qui décidera si vous avez besoin de vous faire dépister, si vous avez un doute. Par contre, si vous avez des symptômes très graves, des difficultés respiratoires ou des grosses fièvres, il ne faut pas hésiter à appeler le 15 directement si ça ne va vraiment pas.
Voilà. Donc oui, comme je l'avais dit précédemment, il est important de rappeler quand même que donc, les psychologues sont là. Si jamais les étudiants vont vraiment mal, se sentent isolés et seuls, ils peuvent bien évidemment bénéficier de ce service au service de santé universitaire.
Nous, pendant ce confinement, on va continuer à mettre en place différentes activités et opérations pour continuer à être en lien avec les étudiants. Avant le confinement, on avait essayé de mettre en place le mois sans tabac avec des challenges pour motiver les étudiants à arrêter de fumer. Donc, on ne peut plus intervenir sur place, sur le lieu de l'université. Et on va continuer à parler du mois sans tabac quand même sur nos réseaux sociaux.
Donc, vous pouvez effectivement nous suivre sur Instagram et Facebook avec le nom donc ERS de Tours. On va donc pouvoir parler effectivement du mois sans tabac qui a commencé hier et aussi parler cuisine, par exemple, en tout cas pour se détendre un peu et penser à autre chose. Du coup, oui, pour le mois sans tabac, c'est vrai qu'on peut se dire que ce n'est pas forcément la priorité, que c'est compliqué de s'y mettre, mais ça peut être aussi l'occasion de se fixer un objectif et donc après être fier de soi à la fin du confinement. En plus, le fait d'arrêter pendant un mois favorise après l'arrêt complet de la cigarette. Il y a 5 à 6 fois plus de chances de l'arrêter tout court.
Et selon les personnes, le confinement, ça peut être un cadre propice pour arrêter la cigarette. Parce que si on est chez nous dans un lieu qu'on connaît et dans lequel on est à l'aise, il y a moins de sources de stress et du coup, ça peut être plus facile de rester chez soi et trouver d'autres façons de se détendre autres que la cigarette. Et voilà. Ça peut être le bon moment justement. En plus, le confinement, il dure un mois, donc c'est le mois du mois sans tabac aussi.
Et on peut retrouver plus d'informations sur Tabac Info Service ainsi que sur nos réseaux sociaux, bien évidemment. Le service de santé universitaire est assez flexible et va essayer toujours d'aider les étudiants et non pas de leur dire non, vous n'avez pas droit à la santé. Donc, dans un premier temps, ils peuvent éventuellement avancer les frais, mais l'idée, c'est qu'après, il y aura certainement une prise de rendez-vous avec l'assistante sociale pour trouver des solutions et aider au mieux ces étudiants. Je pense que malheureusement, le moral n'est pas plus haut parce que là, c'est vrai que c'est le deuxième confinement. Je sais que personnellement, moi, je le fais toute seule et ça peut effectivement être dur pour les étudiants de se retrouver toute seule, par exemple, dans un petit appartement ou voilà, n'ayant pas pu revenir dans sa famille. En tout cas, ça peut effectivement être compliqué. C'est pour ça qu'il faut essayer de se trouver des objectifs, peut-être reprendre, je ne sais pas, par exemple, lire ou regarder effectivement des séries et pour l'activité physique, parce que ça va bien évidemment avec le mental. C'est compliqué en temps de confinement, mais essayer par exemple d'aller un peu marcher, essayer de s'aérer un peu l'esprit malgré tout et réfléchir à ce qu'on peut faire en ces temps assez compliqués. Pour l'activité physique, on peut effectivement, maintenant il y a plein d'applications gratuites qui se développent, donc ça peut être intéressant. Et sinon, donc n'oubliez pas, vous pouvez bien évidemment continuer à vous soigner en venant au service de santé universitaire.
Et surtout, il ne faut pas se mettre la pression, chacun vit son confinement comme il le souhaite. Si vous voulez vous donner des objectifs, allez-y. Mais si vous avez juste envie de chiller en dehors des cours et de vous reposer, il ne faut pas hésiter, c'est un moment aussi pour vous. Il ne faut pas se mettre la pression, déjà que c'est assez stressant.
Voilà, on n'est pas obligé d'être un confiné efficace.
C'est ça, mais il faut quand même maintenir une petite activité physique pour se maintenir en forme.
Merci à Gaëlle et Faustine, étudiantes relais santé au service de santé universitaire. Je vous invite évidemment à retrouver les ERS sur les réseaux sociaux. Et tout de suite, une pause musicale dans cette méridienne. Vous écoutez Radio Campus Tour.
Pande bana wende be yidi, babi se pande bana wende iboki. Balangwe di pande bana weben madiba, balangwe di pande bana ogwe di jalala. Bisa o, balangwe di pande bana wende be yidi, babi se pande bana wende iboki. Balangwe di pande bana weben madiba. Babi se pone mbana okwe di njalala Bisa o Otitinika Bisa o Kusimana wa Bisa o Pande bana wende mwiditi Balangwe di ne bana wende na misodi Babi se pande bana wende na bongo Babi se pande bana unalande songo Bisa o Babi se pande bana wende mwiditi Balangwe di ne bana wende na misodi Babi se pande bana wende na bongo Babi se pande bana unalande songo Bisa o Otitinika Bisa o Usimana wa
Vous écoutez toujours Radio Campus Tour, première méridienne reconfinée. Je vous propose, chers auditeurs, d'écouter à présent Jackie Chartier, directeur du transfert à Cévallo. Merci Jackie Chartier de nous accorder un peu de temps sur Radio Campus Tour pour nous présenter Cévallo. Alors, derrière ce nom mystérieux, on a un dispositif, entre autres, d'investissement public créé en avril 2019. Alors, c'est une entité qui accompagne la recherche en région Centre-Val-de-Loire. Est-ce que vous voulez nous en dire plus ?
Alors oui, Cévallo, c'est ce qu'on va appeler en fait un dispositif, comme vous l'avez dit, d'investissement en région Centre-Val-de-Loire. Qui permet d'investir et de soutenir les résultats de la recherche publique en région centre, donc au bénéfice du transfert de technologies vers l'entreprise, vers l'industrie, vers les services. Donc, alors c'est un produit, si jamais je rentre un peu dans les, dans les détails. C'est un produit en fait qui est issu du programme Investissement d'Avenir. L'État, si je fais un peu d'histoire, avait envisagé il y a une dizaine d'années de créer des sociétés d'accélération au transfert de technologie, des SAT. Il en existait 14 en France. Il en existait une sur un territoire qui couvrait Poitou-Charentes, Limousin, Auvergne, Centre-Val-de-Loire, qui était la SAT Grand Centre, et dont l'État a décidé, au regard de ses résultats, de la mettre en extinction. L'État a permis quand même, en remplacement de la mise en extinction de ce dispositif, de créer trois nouvelles structures, une qui s'appelle Agence Aliénor Transfert, qui couvre plutôt le périmètre Poitiers-Limoges, une qui est sur l'ancienne Auvergne, qui s'appelle clairement Auvergne Innovation, et enfin une dernière qui s'appelle Cévalo, qui couvre finalement le périmètre et le territoire de la région Centre-Val de Loire. Donc voilà un peu la genèse et l'historique de la naissance de Cévalo, donc ce dispositif qui finalement vient en remplacement d'un dispositif que l'État a choisi de mettre en extinction et qui bénéficie de la même manière du fonds du programme d'investissement d'avenir dans le but de vraiment financer l'investissement dans le développement des travaux issus de la recherche publique.
Alors, Jacques Chartier, vous venez d'expliquer que cette SAT, de T même, je crois, a été mise en extinction. Alors, au vu de ses résultats, est-ce que vous voulez nous en dire plus ? Pourquoi ce choix a-t-il été fait ?
Je n'aurai pas de version officielle à donner sur le choix de la mise en extinction et je ne voudrais pas forcément rentrer dans des discours un peu polémiques. Il est vrai que quand le programme Investissement d'Avenir sur les sociétés d'accélération au transfert de technologie, SATT, a été mis en place. Il était prévu de la création en 2012, globalement, une évaluation à 3 ans, puis une évaluation à 7 ans, puis une évaluation à 10 ans avant pérennisation, dans le but finalement de vérifier l'adéquation entre la réponse qui était faite par un territoire, c'est-à-dire par l'ensemble des établissements et organismes de recherche publique d'un territoire, versus les résultats escomptés dans le cahier des charges initial. Je dirais que ce qui a provoqué finalement la mise en extinction de la SAT Grand Centre, c'était l'inadéquation entre les résultats promis et les résultats réels. Et d'un point de vue personnel, je compléterai ça par sans doute une territorialité un peu grande, puisqu'il faut imaginer qu'on allait de La Rochelle à Clermont-Ferrand, en passant de Chartres jusqu'à, de la même manière, Clermont-Ferrand aussi. Donc on avait quand même une territorialité sans doute un peu grande et des réalités régionale et territoriale qui était un peu différent dans ce sens-là où pour moi on répond maintenant à quelque chose d'un peu plus réel et en phase avec ce que le territoire et ce que les territoires, puisqu'ils ont tous des spécificités finalement, sont en capacité de proposer en termes de recherche ou éventuellement en termes de tissu économique ou industriel.
Alors, quelles sont les spécificités de la région couverte, entre guillemets, par Valo, par Cévalo même, pardon?
Alors, je dirais, là on couvre typiquement le territoire de la région Centre-Val-de-Loire, donc, c'est-à-dire un ensemble de plusieurs établissements d'enseignement supérieur ou de recherche. On va couvrir finalement tout ce qui va être les deux universités Tours et Orléans, le CNRS, l'INSA Centre-Val-de-Loire, l'INRAE, l'INSERM, le CHR de Tours. Finalement, donc c'est finalement un gros panel d'activités d'enseignement, de recherche sur le territoire. Après, on le voit aussi avec un certain nombre d'acteurs qui peuvent être présents en termes de clusters ou pôles de compétitivité, c'est-à-dire qu'on a finalement un certain nombre d'acteurs en présence, tels qu'à un moment donné, on peut avoir tout ce qui va être autour de la cosmétique par l'intermédiaire de la Cosmétique Vallée. On va avoir tout ce qui va être autour de la construction, etc., avec l'Elastopol. On va avoir tout ce qui va être électronique avec S2E2 ou éventuellement tout ce qui va être le domaine du végétal avec des pôles comme Végépolis. Donc finalement, voilà, on a un certain nombre de choses. Et puis, évidemment, on a la spécificité aussi propre aux médicaments, pharmaceutiques, biomédicaments, notamment, puisque c'est aussi ce qui se joue en termes de spécificité sur le territoire à un moment donné. Donc, on n'a pas de visée à être spécifiquement dans un domaine donné, mais on a un certain nombre d'acteurs ou un certain nombre de signaux en termes d'industrie sur le territoire qui nous permettent de se dire que ça peut être pertinent dans certains cas d'avoir des actions de transfert plutôt vers un écosystème régional, s'il existe bien entendu.
Comment vous définiriez le transfert de technologie ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Alors le transfert de technologie, c'est l'une des missions des universités, on va dire, c'est de l'une des missions d'un enseignant-chercheur dans une université, c'est à la fois d'enseigner et de chercher. C'est la même mission finalement que va avoir un chercheur d'un organisme national type CNRS, etc., etc. Dès lors qu'ils ont une activité de recherche, ils la font au sein d'un laboratoire de recherche et ils travaillent dans le but d'essayer de trouver un résultat. Alors, on a beaucoup d'appels à projets en ce moment qui tombent, notamment autour d'essayer de trouver un nouveau médicament ou un vaccin pour soigner la pandémie au regard de la situation sanitaire Covid-19, par exemple. Ça veut dire que les acteurs se mettent ensemble, ils essayent dans un laboratoire de recherche de faire progresser la recherche et à un moment donné, ils trouvent quelque chose. Je dis volontairement quelque chose parce que quelque chose, ça peut être une méthodologie, ça peut être une nouvelle molécule pour un médicament, ça peut être simplement un algorithme pour de la sécurité électronique et informatique, ça peut être un résultat qui est issu du travail du laboratoire. Ce résultat issu du travail du laboratoire, il est susceptible d'intéresser un industriel. Et cet industriel va souhaiter finalement à un moment donné avoir un droit d'utiliser ce résultat. Et donc le transfert de technologie, c'est, j'allais dire, le vecteur qui permet à un industriel d'utiliser et d'exploiter, donc là on parle vraiment d'avoir un droit qui lui est donné, pour qu'il puisse finalement exploiter commercialement ou non commercialement, suivant son choix, le résultat de la recherche qui a été fait par ces chercheurs ou enseignants-chercheurs. Donc c'est vraiment ça, cette notion de transfert, c'est donner un droit à une entreprise de service ou éventuellement de bien d'exploiter, commercialement ou non, un résultat issu d'un des laboratoires de recherche.
Donc ça veut dire que là, enfin pour simplifier à l'extrême, vous mettez en lien des gens qui ont des idées, qui cherchent mais qui n'ont peut-être pas forcément de moyens, avec des structures qui ont besoin de nouvelles compétences ou de savoir et qui ont du budget, c'est ça ?
Alors, on va dire qu'on met en lien des acteurs, j'allais dire des têtes pensantes de la recherche publique française issues de laboratoires de recherche publics qui, à un moment donné, partent d'une idée dans le but d'essayer finalement de faire avancer cette idée un petit peu au regard des moyens qui lui est donné par l'État ou par les organismes dans le cadre de la recherche publique, au moyen de moyens qui peut lui être donné dans certains cas par les régions, la région Centre-Val-de-Loire, par exemple, dans le cadre d'appels à projets, etc., etc., vers l'entreprise qui, elle, pourrait se dire « ça va m'intéresser, je vais souhaiter développer un peu plus ce résultat-là pour ensuite pouvoir en vendre un produit ». Et c'est là où, je dirais en effet, le laboratoire de recherche a les moyens pour faire de la recherche. L'entreprise, elle va investir parfois des dizaines de milliers d'euros, parfois des dizaines de millions d'euros, suivant les typologies de produits qui vont l'intéresser, dans du développement. Et entre les deux, il peut dans certains cas y avoir un besoin d'investissement qui peut être réalisé, par exemple, comme un acteur comme Cévalo, si jamais on en revient finalement à la genèse et à l'existence de Cévalo.
Voilà, et donc il y a, comment dire, c'est indiqué d'ailleurs sur votre site c-valo.fr, il y a un souci autour de la protection de la propriété intellectuelle. Ah, est-ce que vous voulez nous en dire plus ?
Alors, quand je parlais tout à l'heure de la notion d'un transfert, en fait, ça veut dire que du résultat de la recherche publique, il va être donné un droit à une entreprise d'utiliser ce résultat de la recherche publique, d'utiliser à des fins commerciales, etc., etc. Ça veut dire que, comme pour beaucoup de choses, en fait, si jamais je donne le droit à quelqu'un de l'utiliser, ça veut dire qu'il faut que j'essaye d'identifier quel est l'objet de ce droit. Et en fait, ce droit, en fait, il faut essayer de le caractériser. Et c'est vrai qu'assez régulièrement, on parle là de la notion de propriété industrielle ou de propriété intellectuelle. C'est-à-dire, est-ce que finalement, cette recherche issue du laboratoire qui commence à être éprouvée, est-ce que je peux la transformer en une demande de brevet? Est-ce que finalement, c'est un logiciel que je vais essayer d'aller déposer auprès de l'Agence de protection des programmes? L'ensemble de ces actions-là permettent d'identifier clairement en disant, bon, bien voilà, aujourd'hui, à ce stade, tel laboratoire en région Centre-Val de Loire a réalisé telle chose, et pour formaliser finalement la nature de son invention ou pour formaliser la nature de son logiciel, par exemple, eh bien, on fait un acte qui va être finalement un dépôt, soit d'une demande de brevet, soit d'un logiciel, par exemple. Soit on décide éventuellement de maintenir cet élément-là secret, mais finalement, on fait cette action un peu de formalisation de ce qu'on appelle la propriété intellectuelle, la propriété industrielle, qui permet finalement de décider à un moment donné quels vont être déjà les propriétaires et puis qu'est-ce qui va être réellement transféré à une entreprise dans le cadre de cette action de valorisation.
Mais justement, c'est une question intéressante. Qui est propriétaire, celui qui trouve ou celui qui paye?
Alors, j'allais dire, là, on en arrive à des fondements autour de la propriété un peu intellectuelle. Donc, la propriété intellectuelle, c'est un peu ce qu'on va appeler donc la propriété industrielle, si je rentre un peu dans la logique un peu technique, et la propriété littéraire artistique. Dans le cadre de la propriété industrielle, un salarié d'une entreprise a, dans le cadre de son statut de salarié de quelque chose, salarié d'une entreprise ou salarié, pardon, d'un établissement public, a dans le cadre de son statut une dévolution de ce qu'il fait à son employeur. Ça veut dire que globalement, je suis agent public, je suis agent contractuel de l'Université de Tours en ce qui me concerne. Si jamais j'avais une activité inventive et que je contribue à quelque chose qui peut faire l'objet du dépôt d'un brevet, en tant qu'individu, le brevet serait au nom de l'Université de Tours, si jamais elle souhaite le déposer, et mon nom serait au niveau des inventeurs d'une invention. Donc je serais inventeur de l'invention portant sur quelque chose au nom de l'Université de Tours. Il en est de même d'ailleurs pour un salarié d'un établissement privé. Si j'étais salarié d'une entreprise comme n'importe quelle entreprise dans le coin, je serais aussi inventeur de mon invention et le propriétaire de l'invention serait bien mon employeur. Ce qui signifie que, automatiquement, c'est bien à l'employeur de décider si oui ou non il est intéressé par le dépôt de cette demande de brevet. S'il n'est pas intéressé, en mon nom propre, moi je pourrais éventuellement décider de la déposer, et à ce moment-là, du coup, il n'y aurait plus cette notion d'employeur. Mais voilà, mais c'est vrai que ce sont des choses qui font dire que, dans un laboratoire de recherche publique, l'ensemble des membres de ce laboratoire de recherche publique sont salariés d'une entité, que ce soit par exemple dans le cadre d'une unité mixte de recherche entre le CNRS et l'Université de Tours. Eh bien, la personne est soit salariée du CNRS, soit salariée de l'Université de Tours, et eh bien, globalement, le brevet sera déposé à minima au nom de l'employeur de ce salarié. Je précise bien ça parce que pour tous les étudiants qui sont en situation d'écouter votre radio, dès lors qu'il n'y a pas de contrat de travail entre une personne et un employeur, cela signifie bien que la dévolution des droits n'existe pas. Donc, un étudiant qui contribue à une invention quelque part, en fait, il est titulaire des droits sur son invention. Un stagiaire qui est indemnisé au titre de la gratification, qui est gratifié et qui n'est pas salarié, par exemple, d'un établissement, en fait, il est bien titulaire de ses droits et ce qu'il fait lui appartient en tant que tel. Je mets un petit bémol quand même, puisque dans le cadre d'un stage ou éventuellement dans le cadre d'un projet d'études, il est tout à fait possible pour un établissement de faire signer un contrat de cession qui voudra simplement dire que si l'étudiant fait quelque chose, il s'engage à le céder à telle ou telle entité. C'est ce qui permet dans certains cas de bien vérifier qu'on est en situation de pouvoir générer la propriété intellectuelle qui est mise en œuvre.
Là, il y a une certaine conception de la recherche et du service public aussi qui se joue, parce que ça, comment dire, ça, c'est lié à un certain état d'esprit, cette idée de céder ses droits. Peut-être même que certains chercheurs ne se posent pas la question parce qu'ils ils considèrent qu'ils travaillent pour une entité et non à leur nom propre. Qu'est-ce que vous en pensez?
Là, je dirais, alors, avant d'arriver moi en tant que directeur du transfert de Cévalo, j'ai fait globalement une grosse dizaine d'années dans le domaine de la valorisation de la recherche publique. Je pense qu'on a toujours un petit peu les questions des débats idéologiques entre je fais de la recherche pour l'État, ou je fais de la recherche pour faire avancer la science, ou je fais de la recherche pour une valorisation économique à un moment donné et pour permettre à certains acteurs de générer du profit au regard de ma recherche, etc., etc.
Qui ne sont pas forcément incompatibles d'ailleurs.
Ils ne sont absolument pas forcément incompatibles, et heureusement d'ailleurs, elles peuvent à certains moments se mélanger, et dans certains cas, elles peuvent totalement s'articuler les unes avec les autres. Après, je dirais que pour un enseignant-chercheur, dès lors qu'il est salarié d'un organisme de recherche, automatiquement, il le sait, entre guillemets, il le sait ou il le découvre, parce que dans le deal initial de son statut d'agent public, globalement, ce qu'il fait est dévolu à son employeur, et c'est avec son employeur qu'il va envisager de voir comment finalement peut se gérer le transfert éventuel des résultats, ou cette notion de tout cela on va le publier parce que finalement c'est intéressant mais ça ne générera pas forcément, ou alors ce sera intéressant de le partager avec la communauté sans pour autant avoir ce droit d'interdire aux autres de l'utiliser, etc., etc.
Est-ce que vous voyez une évolution de l'état d'esprit des chercheurs et des équipes de recherche sur ces questions, puisque ça fait, comme vous l'avez dit, quelques années que vous êtes expert dans ce domaine? Est-ce que vous voyez une évolution?
Il y a une volonté aussi de l'État d'avoir mis en œuvre à un moment donné ces questions autour de cette évolution. Il y avait des secteurs, il y a de nombreuses années, qui étaient plutôt des secteurs habitués, à la valorisation par le transfert de technologie. On citera principalement le domaine de la santé. Le domaine du médicament, ça fait de nombreuses années qu'il sait très bien que, globalement, les laboratoires de recherche cherchent ce qu'ils trouvent à un moment donné. Il est nécessaire de faire finalement un certain nombre de phases. On appelait ça des phases cliniques, des essais cliniques, ce genre de choses. Et là, globalement, le milieu de la santé était habitué à ce genre de vecteur, était habitué à aller clairement sourcer dans les laboratoires, investir dans l'augmentation en maturité et ensuite prendre des licences sur les brevets qui étaient déposés par les universités dans le but d'exploiter la technologie, etc., etc. D'autres secteurs étaient quand même beaucoup moins adaptés à ce genre de pratiques. Et là, ce que je dirais, c'est qu'on a un certain nombre de secteurs qui sont en train de d'être plus friands de ce genre de choses, ce qui veut dire que les chercheurs, les enseignants-chercheurs, finalement, ont aussi de plus en plus un peu la vision d'essayer de se dire, mais est-ce que je ne pourrais pas trouver l'un de mes résultats de ma recherche dans un des produits, dans un service proposé, etc., etc. Donc, on a quand même une catégorie qui commence à plutôt se positionner et évoluer de cette manière-là, en se disant que oui, c'est intéressant de voir la concrétisation de sa recherche, aller plus loin et éventuellement avoir une part dans la contribution à la mise en œuvre de cette appropriation et de cette action de transfert. Donc oui, moi je dirais qu'il y a quand même de plus en plus des évolutions, et là où ça se voit encore plus, c'est finalement sur la création de start-up et de sociétés innovantes. C'est-à-dire que de plus en plus, finalement, on a aussi un certain nombre d'acteurs de la recherche publique qui cherchent plutôt à valoriser leurs travaux et à transférer leurs travaux par la création de start-up sur le territoire national.
Est-ce que c'est une pratique qui est plus courante peut-être dans certaines autres zones du globe qu'en France?
Alors, j'allais dire, on aime bien assez régulièrement jouer les comparatifs. Alors, quand on va jouer les comparatifs, on va dire « Ah, mais il vaudrait mieux aller aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, c'est plus facile de faire du transfert de technologie, parce que aux États-Unis, c'est plus facile de lever des fonds dans le cadre de la création de start-up, etc. etc. » J'aurais tendance à répondre oui et non. Je répondrais oui parce que il est parfois facile dans des pays type États-Unis, de faire des levées de fonds un peu plus importantes et peut-être avec moins de difficultés ou moins de barrières que l'on pourrait rencontrer sur le territoire national. Et je dirais en même temps non, parce que, sur le territoire national, il y a un certain nombre d'acteurs et d'aides qui se mettent en place les unes à la suite des autres et qui s'enchaînent, éventuellement qui s'entrelient, de telle sorte à pouvoir permettre d'essayer quand même d'avancer dans ce genre de choses. Mais oui, il y a des endroits où les gens espèrent que ce soit peut-être un peu plus courant que dans la culture et dans notre culture ici sur le territoire national.
D'ailleurs, vous parlez de barrières, Jackie Chartier, c'est-à-dire ?
Alors, quand je raisonne de barrières au sens... Là, je pense qu'il faudrait que je reprécise peut-être un peu la notion de barrière. Alors, quel type de barrière est-ce que j'ai pu utiliser ? Qu'est-ce que j'ai pu vous dire en termes de barrières ?
Qu'il y avait certaines barrières sur le territoire national français quant à ces fonctionnements en start-up.
Alors, quand je parle éventuellement de barrières à un moment donné, c'est que il y avait, et la loi est en train d'évoluer aussi en ce sens, mais il n'était pas forcément facile pour un enseignant-chercheur de pouvoir prendre des parts au capital, assurer la valorisation de ses propres travaux de recherche dans le cadre de la création d'une entreprise. Alors évidemment, ça avait été soulevé il y a globalement une vingtaine d'années maintenant par la loi Allègre, qui avait tenté en 1998 d'essayer de favoriser cela, qui avait été reboosté en 2008 en essayant de dire il faut fêter les 10 ans de la loi Allègre et rappeler son existence et rappeler le rôle que peuvent jouer les acteurs de la recherche publique dans la création de valeur et dans la participation à la création d'entreprises. Il n'empêche que des simplifications viennent d'avoir lieu récemment dans le cadre des nouvelles lois qui permettent finalement à un moment donné aux chercheurs de prendre plus éventuellement de participation dans ce genre de société, en veillant bien évidemment quand même à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre le maintien d'un service public au sein d'un établissement public d'enseignement et de recherche versus de la création de valeur dans une entreprise, qu'elle soit issue des travaux de recherche de cette même personne. Donc c'est là où il faut trouver le juste équilibre en fait, entre la permission donnée et puis, l'observation que l'on ne tombe pas dans des dérives à un moment donné dans les actions de valorisation et de transfert. Quoi. Donc c'est là où il faut réussir à un peu rentrer dans un juste équilibre entre ne pas trop verrouiller les choses et en même temps être suffisamment dans le contrôle et l'analyse pour vérifier qu'on ne va pas être dans du conflit d'intérêts ou éventuellement dans un mauvais rapport. Donc oui, il y a un certain nombre de points qui sont à mettre en garde et à prendre en compte.
Alors sur votre site c-valo.fr, on trouve, Jackie Chartier, plusieurs fiches projets. Voilà, on peut télécharger des fiches projets. Donc là, je vois par exemple le bromotisme, repositionnement de molécules pour le traitement des troubles du spectre autistique. Ça, je suppose que c'est l'INSERM, peut-être l'équipe iBrain. C'est quoi alors toutes ces fiches projets qu'on peut...
Alors en fait, globalement, comme je le disais, l'objectif du transfert de technologie, c'est de partir d'un résultat d'un laboratoire de recherche, de permettre à une entreprise de s'approprier ce résultat et à un moment donné de se dire bon ben ok, pour que l'entreprise s'approprie le résultat, qu'est-ce qui lui manque à ce jour par rapport à l'état de la recherche que pourrait avoir le laboratoire. Et très clairement, ça va passer par la vraie question de se dire il existe un résultat au sein du labo, moi en tant qu'entreprise il pourrait m'intéresser. Alors si je le fais de manière très générale et pour prendre un exemple très simple, totalement décorrélé des investissements Cévalo, et après je reviendrai sur les fiches, vous avez développé dans un laboratoire une nouvelle cellule photovoltaïque de 10 cm sur 10 cm avec un démonstrateur qui fait 10 cm sur 10 cm. Vous adressez à une entreprise spécialisée dans le photovoltaïque, elle a l'habitude de monter des panneaux qui font plutôt de l'ordre de 3 mètres sur 3 mètres, c'est-à-dire 300 cm par 300 cm. voire même de manière encore plus gourmande, 900 cm sur 900 cm. Elle vous dit, j'aime bien votre nouvelle technologie, j'aime bien votre nouveau procédé photovoltaïque, sauf que si vous me démontrez qu'il fonctionne en 1 mètre sur 1 mètre, alors je vous prends la technologie et j'essaye de travailler sur son industrialisation dans mon entreprise. Et bien là, on va être dans une logique de se dire qu'il faut investir un petit peu, le juste nécessaire, pour permettre de convaincre cette entreprise. Et là, cet investissement va permettre de changer d'échelle, de passer du 10 cm sur 10 cm au 100 cm par 100 cm. Et donc, ça va être un investissement qui peut éventuellement, qui aurait pu, dans le cadre de cet exemple-là, être réalisé par Cévalo dans le cadre finalement d'un investissement en maturation technologique. On fait un changement d'échelle et on vérifie, donc on réalise le prototype et ensuite on le caractérise, c'est-à-dire qu'on vérifie qu'il réponde bien à l'exigence de production finalement d'énergie de la même manière que ce qu'on avait mesuré sur notre 10 cm par 10 cm. Et là, on est dans cette logique d'investissement. Et les technologies que l'on peut voir sur le site de Cévalo, c'est finalement un certain nombre d'investissements en maturation. Vous citiez le projet Bromotisme, finalement, qui est pour le traitement des troubles autistiques, à un moment donné, en utilisant les ions bromures. En effet, un projet issu de l'unité iBrain, et qui finalement bénéficie actuellement d'un investissement de plus de 100 000 euros pour une maturation dans le but finalement d'essayer d'aller trouver un industriel pour licencier la technologie. Et on parlait tout à l'heure de la propriété intellectuelle, et bien c'est une invention qui a fait l'objet d'un dépôt de brevet il y a quelques années maintenant.
Et donc, dans ces autres fiches, on voit là un projet autour du délivrance, un dispositif de délivrance de médicaments par ultrasons, une nouvelle molécule pour le traitement de la douleur, une nouvelle technologie de suivi pour les voilà, le virus qui est propre aux transplantés rénaux. Voilà, il y a d'autres choses aussi, donc médicaments, antibiorésistance. Voilà, ensuite, il y a aussi d'autres projets sur le développement de matériaux. Voilà. Là, qui sont en projet en prématuration. Mais on voit là quand même que c'est des... Plutôt, on va dire, alors pardon pour les sciences humaines et sociales, mais ça, c'est plutôt des sciences dures, entre guillemets. Est-ce que vous êtes appelé aussi à accompagner des projets de sciences humaines et sociales?
Alors, si on devait faire le bilan, entre guillemets, de notre première année, enfin globalement d'avril 2019 jusqu'à maintenant... on a investi un peu plus de 2 millions d'euros dans, en effet, globalement, 7 projets en maturation et un certain nombre de projets en prématuration, dont, à ce stade, la quasi-globalité sont dans le domaine de la santé. Ce n'est pas du tout une finalité pour nous et ce n'est pas du tout un objectif. C'est même plutôt, je ne vais pas dire un regret, parce qu'on n'est pas au stade des regrets, on est quand même plutôt en train d'essayer d'aller vers d'autres secteurs, vers d'autres domaines, etc., etc., et d'essayer de ne pas se limiter. Et d'ailleurs, sur les fiches qui sont proposées, on a à la fois quelque chose autour de l'électronique imprimée d'un côté, par exemple, avec le projet SolarPrint, et puis quelque chose autour de la partie aérospatiale et plutôt... fusée, navette, etc., avec un autre projet DBNO qui, finalement, montre quand même à démontrer qu'on n'est pas uniquement dans le domaine de la santé, mais c'est vrai que nos premières opportunités ont été dans le domaine de la santé. Bien entendu, on ne se ferme absolument pas à quoi que ce soit. On espère, par exemple, investir prochainement dans un projet dans le cadre de l'économie circulaire et éventuellement de produits plutôt phytosanitaires, etc., etc. Et derrière, on n'exclut pas non plus de travailler dans tout ce qui va être domaine des sciences humaines et sociales, sciences de l'homme et de la société. Ce n'est pas du tout une finalité en soi pour nous de se dire on se limite à tel type de choses. Après, il est vrai que la valorisation économique au travers du transfert de technologie dans le domaine des sciences humaines et sociales est parfois plus difficile. C'est d'ailleurs l'objet d'une commission en tant que telle au sein du réseau Curie, qui est le réseau des structures de valorisation de la recherche publique au niveau national. C'est-à-dire que l'on sait très bien que c'est une préoccupation d'essayer de voir comment aussi avoir une valorisation dans le domaine des sciences humaines et sociales. Mais on essaye de travailler par contre en interaction avec les chargés de valorisation, dont la chargée de valorisation au niveau du service partenariat innovation valorisation de l'université de Tours par exemple, pour essayer de faire émerger un certain nombre de projets dans le domaine des sciences humaines et sociales.
Ça veut dire que la recherche culturelle est moins bankable ?
Alors, je ne sais pas si je vais le résumer comme ça. Je dirais qu'actuellement, le modèle de partir d'un résultat, en identifier une protection, le transférer et le mettre en licensing, est peut-être parfois moins propice à des projets issus des sciences humaines et sociales, tout simplement parce que, dans certains cas, finalement, on va plutôt être sur du projet collaboratif, on va plutôt être sur du projet. Alors, il y a quelques projets, il y a des méthodes de management de l'innovation, de management par le progrès, qui vont éventuellement avoir été conçues dans le cadre de laboratoires plutôt sciences humaines et sociales, et qui, finalement, sont transférées dans des entreprises de coaching, etc. Mais on est là parfois sur un modèle un peu marginal et les acteurs des sciences humaines et sociales diront ça n'est que partiellement nos activités et c'est un peu les tirer par les cheveux. Après, l'un des deuxièmes vecteurs parfois du transfert dans les sciences humaines et sociales est parfois par la transformation d'innovation par l'intermédiaire du numérique. C'est-à-dire on transforme telle innovation en une appli et ensuite on a une action éventuellement de transfert. Mais il est vrai que c'est une vraie question de savoir finalement comment assurer un revenu si jamais on se réfère finalement à l'objectif d'une structure comme Cévalo, qui est finalement une structure d'investissement à un moment donné et dont l'objectif fixé par l'État est quand même à un moment donné d'avoir une certaine rentabilité. Et donc forcément, l'entrée et la sortie des projets se fait aussi via une vision finalement de cette rentabilité potentielle et de ce revenu escompté.
Alors pourtant, on pourrait en trouver tout de même sur l'université de Tours, en tout cas des projets de SHS qui pourraient être objet d'une valorisation. Je pense notamment aux travaux du CESR qui travaille sur les outils numériques, notamment à destination peut-être du tourisme ou de choses comme ça.
Alors en effet, on travaille avec, on peut citer en effet le CESR, qui est le Centre d'études supérieures de la Renaissance, que l'on connaît aussi. Alors, il travaille en effet sur un certain nombre de travaux. Un certain nombre de ces travaux sont d'ores et déjà dans le cadre de travaux collaboratifs avec des entreprises. C'est-à-dire que dans le cadre de conventionnement de thèse, CIF ou équivalent, on peut avoir finalement des travaux. Donc ça veut dire que le partenaire industriel est d'ores et déjà identifié et que finalement l'acteur de la valorisation est d'ores et déjà identifié. Donc il est vrai que pour une partie, on a un certain nombre de travaux qui sont d'ores et déjà dessinés pour être mis en œuvre et valorisés presque sans notre contribution, puisque finalement l'industriel est là très tôt, y compris au stade de la recherche en tant que telle. Voilà, donc ce sont des choses en effet que l'on a étudiées. On avait lancé avant même la création de Cévalo, il avait été lancé un appel à projet prématuration sur lequel un certain nombre de laboratoires du domaine des SHS avaient répondu. Et c'est vrai que le CESR avait fait partie des acteurs de la contribution. On a pu voir le CESR présenter une partie de ses travaux dans le cadre de tout ce qui a été fait autour de Léonard de Vinci, etc. On a d'ores et déjà finalement la mise en œuvre et l'applicatif industriel, et c'est peut-être un des leviers dans lequel il faudra qu'on rentre peut-être un peu plus dans nos missions pour essayer d'y aller un peu plus loin, en effet pour développer des sciences humaines et sociales, en faisant bien attention en effet que les mariages sont des fois consommés très, très en amont, c'est-à-dire que l'industriel peut d'ores et déjà avoir été identifié assez tôt, et dans ces cas-là, notre action n'est peut-être pas nécessaire, puisque finalement, il n'y a pas forcément besoin d'un investissement. Mais on va essayer de suivre de toute manière tous ces éléments-là par rapport à ça, quoi.
Et alors, vous parliez de thèse CIFRE également, Jackie Chartier. Alors, admettons que, comment dire, qu'un doctorant ou un aspirant doctorant cherche à faire une thèse CIFRE. Donc, peut-être qu'il a identifié un laboratoire qui pourrait être intéressé, mais ne pourrait pas financer entièrement son parcours doctoral. Est-ce que on peut faire appel à Cévalo pour financer une thèse CIFRE?
Eh bien, l'avantage, c'est que la réponse est non. Alors, j'allais dire l'avantage, non, c'est une réponse explicite. Cévalo, en fait, c'est vraiment de l'investissement dans le cadre de développement de résultats issus de la recherche publique vers le monde de l'entreprise. Ça veut dire que le dispositif CIFRE, en fait, au départ, c'est vraiment le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui avait finalement souhaité favoriser la recherche partenariale publique-privée et proposer à des entreprises d'avoir un versement de la part de la NRT au regard d'un partenariat qui va être établi entre un laboratoire et une entreprise sur un sujet de recherche donné. Et j'emploie volontairement le mot « recherche », c'est-à-dire qu'on est à un stade qui est amont par rapport à nous. C'est-à-dire qu'en fait, là, on va être dans le stade où il existe encore de la recherche à mettre en œuvre. Cette recherche va peut-être donner des résultats qui, pourquoi pas un jour, pourraient intervenir dans le cadre d'une comaturation avec Cévalo, dans le cadre d'une comaturation financée par Cévalo, parce que l'entreprise pourrait dire « ce résultat m'intéresse, mais je n'ai pas de moyens suffisants pour en assurer le développement et je souhaiterais éventuellement continuer à faire des développements au sein du laboratoire, etc. etc. » Là, on pourrait. Par contre, sur la partie mise en œuvre de bourses de thèse, mise en œuvre de contrats de post-doc, qui auraient encore des missions à faire de la recherche, ça n'est pas notre job. Nous, les personnes que l'on est susceptible d'avoir en termes de personnel dans les travaux qui sont financés en maturation par Cévalo, ce sont des ingénieurs, qu'on va appeler ingénieurs maturation, donc des personnels qui vont être embauchés par le laboratoire pour essayer de faire du développement, ou éventuellement, ça peut être aussi des gens qui vont être intéressés pour essayer de réfléchir à la logique de création de leur entreprise, etc. etc. Mais on ne sera pas là du tout pour financer l'aspect recherche en tant que tel.
Alors, Cévalo, c'est aussi une équipe, Jackie Chartier. Voilà, donc peut-être que vous voulez dire un mot sur les membres de votre équipe. Donc vous êtes directeur du transfert, mais qui sont vos collègues?
Alors Cévalo, c'est à la fois une équipe et c'est en même temps un consortium. Alors je vais faire simple au départ. Si on s'intéresse à Cévalo, ce sont dans un premier temps 4 personnes. Donc moi-même, directeur du transfert, Arnaud Pes, qui est donc directeur de Cévalo et qui a contribué à la mise en œuvre du dossier de Cévalo et de la structure de Cévalo telle qu'elle est actuellement. Et puis, donc Daniel Meulet, basé sur Tours, et Kevin Beignier, basé sur Orléans, puisque Cévalo couvre l'intégralité du périmètre de la recherche en Centre-Val-de-Loire. Mais Cévalo, en termes de structure juridique, ça n'est rien. C'est-à-dire que Cévalo, c'est vraiment à voir comme étant un consortium de l'ensemble des acteurs académiques en région Centre-Val-de-Loire, comme je le disais tout à l'heure, qui étaient finalement donc les 3 établissements d'enseignement et de recherche sur la région, c'est-à-dire l'Université d'Orléans, l'Université de Tours et l'INSA Centre-Val-de-Loire, le CNRS, l'INSERM et l'INRAE, et puis le CHRU de Tours. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont aussi finalement des interactions permanentes avec l'ensemble des acteurs de la valorisation et de la recherche de ces établissements-là, donc tant le service partenariat innovation et valorisation de l'Université de Tours que le service partenariat valorisation grand campus commun au CNRS Université et à l'Université d'Orléans, avec les filiales des organismes nationaux type INSERM Transfert, INRAE Transfert, CNRS Innovation, etc., etc. Donc à la fois, c'est une petite équipe de contacts locaux, donc 4 sur le territoire, et en même temps, une interaction réelle avec l'ensemble des acteurs en région Centre-Val-de-Loire, issus des organismes de recherche publique.
Et si je vous dis « science sans conscience n'est que ruine de l'âme », qu'est-ce que ça vous évoque ?
Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Après, ce que ça m'évoque en tant que tel, c'est de dire qu'il faut, selon moi, faire attention à ne pas avoir de déviance, entre guillemets, dans la science, et qu'il est important d'y être vigilant. Voilà un peu ce que je pourrais dire, moi, à un moment donné, c'est-à-dire que dans le cadre de la science, tout ne peut peut-être pas être autorisé et qu'il faut parfois veiller faire attention, entre guillemets, à la finalité ou éventuellement à l'usage qui pourrait être fait de la science que l'on est en train de développer.
Eh bien, merci Jackie Chartier, directeur du transfert chez C-Valo. Voilà, donc on peut retrouver sur votre site toutes les missions de C-Valo et évidemment donc les fiches qui présentent les projets en cours. Merci à vous.
Merci.
Lahi lahi la mama dara suru lahi kone bina kumasa nebe sara la muzola hatununya muzola kula mogelema ibe kono tasegena kidemolo segena hakika no la mo abada Kataga la mola, ibo di la mola, kika noto no dun abada. Sa ah, 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 yi. So wa, so wa, wa. So wa. Neni ndogo ni la mode nye Johnny nye la mode nye Fanta bata ni la mode nye Na umanya nema Kala mwenye ponye neduma la mwa korodo U Johnny nye la mode nye Neni ndogo ni la mode nye Ni ulo teni bibolo Ikana dikata la mwola Nide muzo mani bibolo Ikana dikata la mwola Denje mani bibolo Ikana dikata la mwola Ovena ni duzo kasiye, ovena ni sonjae sa a ai. So wa, wa, so wa.
Cette méridienne reconfinée touche déjà à sa fin. Il me reste, chers auditeurs, à remercier mes invités Gaëlle et Faustine, étudiantes relais santé au service de santé universitaire de Tours, Jackie Chartier, directeur du transfert à C-Valo. Je vous souhaite une excellente journée. À l'écoute de nos programmes, cette émission sera rediffusée aujourd'hui à 17h et vous la retrouverez en podcast sur notre site www.radiocampustour.com où vous retrouverez l'intégralité des podcasts de nos émissions. Voilà, je vous invite évidemment à aller y jeter une oreille.